Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse qui vous propose trois thèmes à savoir. Processus électoral en République démocratique du Congo. Lundi dernier, après le dépôt des candidatures d'Étienne Tshisekedi à la présidence de la République, plusieurs incidents ont été enregistrés. Le siège du PPRD a été saccagé, la permanence de l'IDPS ainsi que la station de la RLTV incendiée. Ensuite, province du Katanga, évasion massive mercredi dernier à la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. 967 détenus se sont échappés, dont 163 ont été repris. Enfin, les Fonds monétaires internationaux et le gouvernement de la République démocratique du Congo satisfaits de l'état de l'économie et des finances congolaises. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Bienvenue Marie Bakoumania, il est rédacteur en chef économie à Télé 7 du groupe de presse Le Potentiel, basé ici à Kinshasa. Bonsoir, bienvenue Marie Bakoumania.
Bonsoir Guy.
Giscard Koussema, il est journaliste à la radio-télévision digitale Congo, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy Maté.
On doit aussi avoir dans ce débat Barthélémy Kazadi Kaboulo, qui est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Katanga. Violence préélectorale, évasion massive à la prison de la Kasapa et satisfecit du FMI. On écoute cette revue de presse que nous propose Alain Hirong pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Commençons cette revue de presse par le dépôt de candidature d'Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe et Nzanga Mobutu à la CENI. Pour l'avenir, ayant déposé sa candidature, Étienne Tshisekedi a affirmé, je cite, « Ce geste symbolise la fin de ma lutte ». Fin de citation. La prospérité s'exclame qu'en marge du dépôt de la candidature de Tshisekedi, le siège interfédéral du PPRD, parti présidentiel, était brûlé. Cette voiture endommagée, selon la consoeur, ce sont quelques combattants qui seraient coupables de ces dommages. Criant l'intolérance politique à l'approche des élections, la tempête des tropiques renchérit, la permanence de l'UDPS attaqué, RLTV incendié à la suite du dépôt de candidature d'Étienne Tshisekedi. Ayant également déposé sa candidature, Vital Kamerhe a justifié sa décision de se porter candidat. Selon lui, il a compris les préoccupations du peuple congolais qui aspire à un avenir meilleur et à un leadership visionnaire et responsable, note l'Observateur. Mobutu Nzanga et Vital Kamerhe ont déposé leur candidature, informe le Phare. Le confrère revient sur le passé de chacun de ces deux candidats à la présidentielle de novembre. Dans ses commentaires, le Phare indique que François-Joseph Nzanga, vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans le gouvernement formé par l'alliance de la majorité présidentielle à l'issue des élections de 2006, s'est tapé une petite publicité au début de l'année en se faisant révoquer du gouvernement par le chef de l'État pour désertion de poste. Dans le chapitre sur l'évasion massive à la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi, l'avenir indique Lubumbashi, attaque spectaculaire d'une prison, près de 1000 évadés. Après l'évasion de plus de 960 détenus à la prison centrale de Kasapa, Adolphe Lumanu à Lubumbashi, pour s'enquérir de la situation, souligne la tempête des tropiques. Sur le plan économique, parlons de la visite de la délégation du Fonds monétaire international, dont une équipe était à Kinshasa depuis le 24 août dernier. Le Potentiel rapporte qu'entre cette institution monétaire et la RDC, c'est le grand amour, tout simplement parce que les experts du FMI ont salué samedi dernier les bons résultats du second programme économique du gouvernement durant le premier semestre 2011. Terminons cette revue de presse par les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Il s'agit entre autres de la rentrée scolaire, du conflit entre la Gécamines et l'entreprise générale Malta Forest sur CMSK et de la signature du code de bonne conduite entre la CENI et les partis politiques.
Merci Alain Hirong. Un petit commentaire. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes rédacteur en chef économie à Télé 7 du groupe de presse Le Potentiel qui est basé ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la signature hier du code de bonne conduite par une partie de la classe politique congolaise.
Écoutez, je n'ai pas entendu l'appel au calme lancé par le cardinal Mosengo, qui a lancé un appel à la retenue à tous les acteurs politiques, ce qui a contribué à apaiser un tout petit peu la situation. J'épingle également la visite du Fonds monétaire international, le satisfecit qu'il a donné au gouvernement. Quand je lis le communiqué à travers les lignes, il y a une phrase qui appelle le gouvernement congolais à plus de transparence dans les industries extractives. Je pense que tous les satisfecits avec cette seule phrase est annulé pratiquement parce que là, on est en train de dire au gouvernement qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir.
Jeskar Kousema, vous êtes journaliste à la radio-télévision digitale Congo émettant depuis Kinshasa. La presse a aussi fait état de la défaite des Léopards face au Lion de la Teranga du Sénégal samedi dernier.
Effectivement, c'est une actualité, mais qui a un peu été reléguée au second plan, simplement parce que cela a été prévisible. Mais quant à la sélection qui a été faite par l'équipe de Radio Capi, je la trouve factuelle et rationnelle. Je crois que pour l'instant, tout le débat reste focalisé sur les processus électoraux et la violence exprimée par les protagonistes.
Barthélémy Kazadi Kaboulo, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Katanga. L'actualité est certainement dominée par cette évasion massive à la prison de la Kasapa à Lubumbashi.
Effectivement, confrère, c'est une actualité qui défraie la chronique ici chez nous à Lubumbashi et généralement dans la province du Katanga. C'est une incursion, disons un commando a fait incursion à la prison centrale de la Kasapa. Comme conséquence tout à fait logique, l'évasion de plusieurs détenus, mais le gouvernement provincial du Katanga n'a pas croisé les bras. Les chefs de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi-Sapwe, a tenu hier un extraordinaire conseil de sécurité au cours duquel quelques résolutions ont été prises, notamment on a mis à prix les fugitifs, notamment le plus important de tous les fugitifs, monsieur
Kyungu, alias Gédéon.
Gédéon Kyungu, c'est 100 000 dollars américains pour toute personne qui va aider.
Voilà, on va y revenir. Hein?
Oui, et aussi il y a une dame qui est aussi dans les cours, elle aussi est recherchée avec un prix de 10 000 dollars. Et pour les autres prisonniers, c'est 500 dollars américains.
Merci.
Voilà un peu la situation qui prévaut ici à Lubumbashi, mais de manière globale, tout semble bien marcher.
Merci. Notre premier thème de ce soir, processus électoral en République démocratique du Congo. Lundi dernier, après le dépôt des candidatures d'Étienne Tshisekedi à la présidence de la République, plusieurs incidents ont été enregistrés. Le siège du PPRD a été saccagé, la permanence de l'UDPS ainsi que la station de la RLTV incendiée. Concernant les dépôts des candidatures à la présidence, notez que jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, seul Vital Kamerhe, Nzanga Mobutu, Étienne Tshisekedi et Ja Andeka Djamba ont déposé leur candidature au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC au siège national de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa. Tous étaient accompagnés de leurs militants. Alain Irung revient sur l'essentiel de leur message.
Le président de l'UDEMO, Nzanga Mobutu, a expliqué que sa candidature était sérieuse. « Nous n'avons pas de jeu à faire avec qui que ce soit », a-t-il déclaré. Le dépôt de la candidature de Nzanga Mobutu a coïncidé avec le 14e anniversaire du décès de son père, le maréchal Mobutu, le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc. Pour le président de l'UNC, Vital Kamerhe, malgré les divergences de vues, les partis de l'opposition peuvent encore trouver un compromis. Il a annoncé qu'il va continuer de discuter avec les autres partis de l'opposition pour trouver un candidat commun et unique. Signalons que le premier à avoir déposé sa candidature est Maître Jean Andeka Njamba. Le président de l'Alliance des nationalistes croyants congolais ANCC en sigle a déposé sa candidature vendredi 2 septembre dernier à Kinshasa. Pour lui, je cite, « Le problème du Congo ne se trouve pas dans le clivage opposition-majorité, mais dans le clivage lumière-ténèbres » fin de citation. Ayant déposé sa candidature le lundi 5 septembre, Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, avait annoncé qu'il mettait fin aux consultations avec les autres partis pour désigner un candidat commun de l'opposition. Rappelons que plusieurs incidents ont été enregistrés à l'issue de ce dépôt de candidature. Il s'agit notamment d'un des sièges du PPRD qui a été saccagé, de la permanence de l'UDPS qui a été incendiée et de la station de la RLTV également incendiée. Plusieurs messages de personnalités nationales et des diplomates accrédités en RDC ont condamné ces actes et appelé les acteurs politiques à la retenue pour des élections apaisées.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Processus électoral, vive tension à Kinshasa ». Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit « Kinshasa fait de plus en plus peur. Les torchons brûlent dangereusement entre l'UDPS et le PPRD ». Nous avons le quotidien La Référence Plus qui dit « Après l'acte de vandalisme sur le bureau de l'interfédéral du PPRD à Kinshasa, Évariste Bouchab lance un appel à la paix ». Nous avons le quotidien La Tempête des Tropiques qui dit « Intolérance politique ». politique à l'approche des élections, la permanence de l'UDPS attaquée, RLTV incendiée. Enfin, nous avons le quotidien Forum des As qui dit, réagissant au dérapage des militants du parti cher à Étienne Tshisekedi, le PPRD accuse l'UDPS de saboter les élections. Bienvenue Marie Bakoumania, quelle lecture vous faites de ces violences préélectorales?
Oui, à mon sens, les gens ne sont pas encore prêts à affronter les urnes. Les uns, ils ont un bilan qui, à mon sens, est mitigé et ils hésitent à retourner voir le peuple pour qu'ils puissent sanctionner ces bilans. Et les autres ne se sont pas encore sérieusement préparés, les autres, c'est-à-dire l'opposition, ne s'étant pas encore sérieusement préparés pour affronter la majorité et ainsi assurer l'alternance, voudraient s'organiser davantage. Je crois que c'est ce qui explique, c'est ce qui justifie cette montée de mercure qu'on a constatée depuis quelques temps après le dépôt des candidatures. Mais alors, la date du 28 novembre qui arrive à pas de géant pousse les uns et les autres à rectifier les tirs et à rechercher à ce que les camps adverses puissent commettre la faute. Et malheureusement, tous les deux camps sont tombés dans le panneau, particulièrement ceux qui sont aux affaires. Ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas céder à la provocation des UDPS qui manifestaient de manière démocratique. Ils ont déployé la force brutale. Ils ont même, selon les accusations qui sont portées sur la place publique, ils ont même déployé ce qu'il convient d'appeler des milices, ce qui n'est pas bon dans une situation où le pays sort d'une guerre qui a duré des années dans la partie orientale. Le pays est encore fragile. Je crois que ceux qui sont aux affaires, l'adage de mon Mimima qui devrait les aider à consolider les acquis et assurer beaucoup de protection à l'opposition, la laisser s'exprimer démocratiquement dans les limites de la loi.
Giscard Koussema, à part les facteurs que vient d'évoquer Bienvenue Marie Bakoumania, notamment pour certains, le bilan est encore mitigé et donc ils hésitent à les affronter la population, et pour d'autres, ils ne sont pas encore préparés à affronter ces élections. À part ces deux facteurs, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces violences préélectorales.
Moi, je pense que d'abord, ce qui arrive, c'est l'expression d'un état d'esprit surchauffé. Vous le savez, ma crainte aujourd'hui, c'est que cette situation puisse desservir les protagonistes. Parce que ce qui se passe maintenant au sein de l'opinion, c'est la peur d'un lendemain incertain. Et je doute même, et cela n'engage que moi, que des gens peut-être ne se mobilisent pas finalement pour aller aux urnes. Si aujourd'hui, pour un simple fait de déposer des candidatures, on en arrive à ce genre de violence, qu'en sera-t-il demain lorsqu'il s'agira de prendre des grandes décisions? Et donc, moi, je pense que les facteurs que mon confrère vient de donner suffisent pour expliquer cet état des choses.
Barthélémy Kazadi Kaboulou, lorsque on va jusqu'à incendier, saccager les sièges d'un parti politique, la permanence d'un parti politique, et même aller jusqu'à incendier la station d'une télévision, quel message les auteurs de ces forfaits veulent faire passer?
De l'intolérance, tout simplement. C'est un message d'intolérance. C'est que dans la politique, dans la scène politique, en République démocratique du Congo, on ne sait pas respecter l'autre, on ne sait pas respecter l'opinion de l'autre, ou bien que l'unanimisme, c'est ça qui est tout à fait la règle d'or de la dictature. Moi, je note que au-delà du rôle fondamental qui revient aux partis politiques de conquérir le pouvoir et de le conserver, moi, je pense que les partis politiques, si aussi vraiment activés, sur des campagnes de sensibilisation morale de leurs membres, éducation civique de tous les membres des partis politiques, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un parti comme l'UDPS, un parti qui a tout le temps prôné la démocratie, puisse vouloir une chose et son contraire. Quand on va jusqu'à incendier les sièges du parti politique, ça traduit à nu certaines velléités de méchanceté, de violence qui ont déjà élu domicile dans les chefs des dirigeants de ce parti politique. Et cela me pousse même à dire que l'UDPS n'est pas prêt à s'incliner devant les résultats des urnes. C'est déjà une fuite en avant. On voudrait déjà préparer une période préélectorale violente et avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Moi, je note tout simplement qu'il faudrait que les leaders politiques de tous les partis politiques de la République démocratique du Congo puissent avoir un discours responsable et puissent appeler leurs militants à plus de responsabilité dans des actes qu'ils doivent poser. Le fait qu'un leader politique va déposer sa candidature à l'élection présidentielle, ça ne peut pas engendrer des troubles dans la ville. On s'en est même pris à des paisibles citoyens qui vaquaient à leurs occupations. On s'en est pris à un engin de l'OVD. L'OVD, c'est un service public. Il y a différents militants des différents partis politiques peuvent œuvrer à cette entreprise-là. L'OVD n'incarne pas le PPRD. Alors, tous ces actes-là de destruction méchante ne peuvent qu'être condamnés. Et nous disons que pour qu'il y ait des élections apaisées chez nous, en République démocratique du Congo, il faudrait une campagne de sensibilisation, de civisme, que les leaders politiques puissent sensibiliser leurs membres à respecter les biens publics et à avoir un certain esprit de tolérance. Il faut tolérer l'autre. Merci. Il faut accepter les points de vue de l'autre.
Oui, je voudrais juste rappeler que jusque-là, on n'a pas encore établi les responsabilités dans ces actes, donc on ne connaît pas qui est à la base de ces forfaits, et les enquêtes sont encore en cours. Que... Bienvenue Marie Bakoumbanya. Est-ce qu'il était impossible de prévenir ce genre de situation?
Ben écoutez, moi, déjà la veille, j'avais vu venir la pression. C'était prévisible. Contrairement à ce que avance Barthélémy, il faut remonter un peu plus loin. Quand les uns privent les autres le droit de s'exprimer dans les médias publics. Je prends seulement cet exemple. Quand les uns, ils organisent leur congrès à Kisangani, le PPRD, pour ne pas le citer, déclarent déjà notre candidat gagnera absolument au premier tour. Et quelques temps après, on modifie la constitution pour qu'il y ait un seul tour dans un environnement vicié dès le départ. On met en place la contestation. On prépare le lit à la contestation. La faute, c'est le PPRD, contrairement à ce que dit Barthélémy. C'est le PPRD. Ceux qui sont aux affaires, la coalition aux affaires. Quand on a en charge la gestion de l'État, on ne dirige pas à l'extrême. On dirige au centre, on tient compte de tout le monde. Et quand l'UDPS revient sur la place. L'UDPS, n'oubliez pas, l'UDPS était pratiquement en veilleuse. C'est au retour de Tshisekedi que l'UDPS a commencé à se réveiller. Ben, ils mettent les turbos. Ils organisent des manifestations des rues pour réveiller leurs militants. C'est démocratique. On ne peut pas le leur reprocher. Ceux qui sont aux affaires, ils n'avaient qu'à encadrer. Que l'on évite que, justement, ces militants de l'UDPS ne brûlent le siège de l'interfédéral du PPRD. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce que la police s'est laissée déborder ou la police a laissé faire?
Et l'UDPS dit que ce ne sont pas ces militants qui ont brûlé les sièges du PPRD.
Justement, on irait de polémique en polémique, ça ne construit pas. Mais je crois à la responsabilité de ceux qui sont aux affaires, c'est d'assurer une paix réelle, une paix sociale réelle, pour qu'on arrive à des élections réellement apaisées. Mais lorsque ceux qui sont aux affaires comptent diriger par défi, parce que quand on voit comment la révision constitutionnelle s'était passée, c'est vraiment une manière de diriger par défi. Ça, on l'avait vu à l'époque de Mobutu, pendant la transition, le Mobutu finissant, c'est comme ça qu'il était en train de diriger. Quand on dirige avec arrogance, quand on suit les discours de certains responsables au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on se dit, on est où là? On est vraiment où là? Parce que on ne peut pas diriger dans un environnement démocratique avec une telle arrogance. Et les conséquences ne peuvent être que celles-là. Et il faut en porter la responsabilité et rectifier rapidement les tirs pendant qu'il est encore temps.
Jusqu'à Kousséma, certains experts pensent que le processus électoral en République démocratique du Congo souffre d'un déficit des consensus et que cela constituerait le principal élément causal de ces violences.
C'est une évidence, effectivement, du matin, lorsqu'on fait la relecture de la gestion du pays au cours de 10 dernières années, on se rend compte finalement que l'intolérance a été érigée pratiquement en mode de gouvernance. Et là, je partage totalement les propos tenus tout à l'heure par mon prédécesseur et confrère, bienvenue Marie, pour dire que le vote de demain ne sera pas fonction de la force qu'on aura exercée, de la force physique bien sûr qu'on aura exercée sur son adversaire, non, mais plutôt de la conduite de qu'une de parties en présence. Et donc, lorsqu'on fait la relecture, effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup d'inégalités, même là où on n'en avait pas besoin. Tout à l'heure, on a dit pourquoi, pour relier Lubumbashi à Kinshasa, il faut passer par une compagnie internationale. Et donc, dites-moi maintenant, quand sera-t-il avec la campagne électorale lorsqu'il faudra gérer? Et donc, lorsque la gestion d'un pays est aujourd'hui prise en otage par un groupe qui croit toujours avoir raison, un groupe qui pense toujours voir les choses du bon côté, par un groupe qui pense avoir le monopole des connaissances, et donc on ne peut qu'arriver à cela. Et aujourd'hui, ce qui inquiète le plus, ce sont justement les perspectives, le manque de consensus est réel. Mais effectivement, c'est là que caractérise tout le monde. Apparemment, l'histoire de ce pays est toujours caricaturée par un certain manque de consensus. Imaginez aujourd'hui ce qui se passe au sein de l'opposition même. Si on peut comprendre qu'au niveau de la majorité, c'est la spirale du silence, et donc il faut voir toujours les choses du bon côté, et que lorsque vous osez dire le contraire, tout de suite vous êtes rejeté. Mais cela est de même aussi du côté de l'opposition. Et donc nous sommes devant un tournant de l'histoire. Et le peuple qui est en train de vivre ces moments se prononcera les moments venus pour porter la responsabilité à celui qui lui aura fait manquer l'occasion d'aller de l'avant. Merci. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un candidat unique. On a suivi les faits et gestes de chacun des prétendants. Et aujourd'hui, le peuple congolais qui n'est pas dupe sait exactement dire qui réellement ne veut pas d'alternance ou ne veut pas d'un front commun au niveau de l'opposition. Et donc, le peuple est assez mûr, le peuple se prononcera le moment venu, peut-être pas le 28 novembre, peut-être pas en 2011, mais quel que soit le temps, mais le peuple, je crois que s'en tiendra un jour.
Barthélémy Kazadi Kaboulo, des réactions n'ont pas tardé à tomber. Il y a les ambassadeurs qui ont réagi, notamment celui des États-Unis. Il y a aussi la MONUSCO qui a réagi. Les églises, tous ont condamné ces actes. Ils proposent unanimement le dialogue entre les acteurs du processus électoral. Mais apparemment, les cadres des concertations n'existaient pas encore au Congo.
Oui, je note d'abord que les confrères qui a parlé tout à l'heure a fait allusion aux médias publics qui ne sont pas accessibles aux gens de l'opposition. Mais moi-même qui vous parle ici, je travaille dans les médias publics. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Vous allez trouver qu'il y a une certaine méfiance des médias publics par les gens de l'opposition. C'est ça d'abord le grand problème. Quand vous abordez les gens de la majorité, ils acceptent facilement d'intervenir, soit au journal, soit dans des émissions. Mais quand vous allez avec du côté des gens de l'opposition, c'est une méfiance tout à fait totale. Et en plus, quand on fait allusion au congrès du PPRD, parce qu'on a dit on va faire élire le président Kabila à un tour unique, mais c'est le même message même à l'opposition, même à l'UDPS. Moi-même qui vous parle ici, j'ai couvert le séjour de M. Etienne Tshisekedi ici chez nous à Lubumbashi, mais c'est le même discours ici au cours de son meeting. C'est ça, passer, disons, gagner les élections au tour unique. C'est le même discours partout. Mais pourquoi ici, ça n'a pas engendré des violences au Katanga? Qu'on ne cherche pas des alibis, des prétextes pour justifier la violence. Moi, je trouve que tout discours, quel qu'il soit, La démocratie, c'est aussi la tolérance, qu'on puisse accepter l'autre avec son discours, mais sans se vouer à la violence. Alors, pour revenir à votre préoccupation, le cadre des concertations,
qui n'existait pas.
Le cadre des concertations viendra d'où? Lorsque on joue à la politique de chaise vide, je pense que c'est la même politique qui continue. Regardez tout simplement, on a demandé à tous les partis politiques de signer les codes de bonne conduite, et aussi aux médias. Mais l'UDPS, jusqu'à ce jour, traîne les pas. l'UDPS a refusé jusqu'à ce jour de signer les codes de bonne conduite. Mais vous voyez déjà qu'il y a une certaine mauvaise volonté manifeste.
L'UDPS dit que c'est préalable, ils ne sont pas encore accomplis.
Envers qui on va faire confiance maintenant? Envers qui?
Merci.
Parce que ce sont les ambassadeurs qui ont dit, est-ce que nous-mêmes, Congolais, nous sommes incapables de nous gérer? Il faudrait que la communauté étrangère intervienne pour que les Congolais prennent conscience.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Province du Katanga, évasion massive. Mercredi dernier à la prison centrale de la Kasapa à Lubumbashi, 967 détenus se sont échappés, dont 163 ont été repris. Le ministre provincial de l'Intérieur dresse un bilan des 967 évadés sur plus de 1300 que compte cette maison carcérale. Jean-Marie Dikanga Kazadi a déclaré qu'un dispositif sécuritaire a été placé à la prison et dans la ville en vue des recherches les évadés. Il affirme qu'une enquête est en cours car, d'après lui, cette opération doit avoir bénéficié de la complicité même des gens de la prison. Jean-Marie Dikanga Kazadi, ministre provincial de l'Intérieur, explique au micro de Denise Maéo les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette évasion.
À l'occasion de cette journée de visite, il y a un minibus, généralement appelé Dubaï, qui s'est pointé là-bas avec des gens à l'intérieur. Entre 10h30 et 10h40, et tout de suite, quand le minibus est arrêté, il est sorti du minibus des gens cagoulés, armés, et qui se sont mis tout de suite à tirer sur le poste de la garde. Et là, en tirant et en détruisant tout sur leur passage, ils sont allés tout droit au pavillon où est gardé Gédéon, un ancien Maïmaï, et donc ils sont allés l'extraire. Et ils sont allés dans un autre local pour extraire une dame. Et à partir de là, ils ont demandé tous leurs coreligionnaires qui étaient dans la prison qui étaient de sortir parce qu'ils étaient venus pour les libérer. Et dans ce mouvement, ils ont demandé à tous les prisonniers d'en profiter et de sortir parce qu'ils laisseraient les portes ouvertes.
Notez que plusieurs décisions ont été prises ce jeudi par le gouvernement provincial à l'issue du Conseil de sécurité, notamment celle qui met à prix la tête de l'ancien chef de guerre Kyungu Mutanga alias Gédéon. 100 000 dollars pour tout celui qui y retrouvera Gédéon. Cet ancien chef de guerre a été extirpé mercredi de la prison de Kasapa lors de l'évasion massive des détenus. Barthélémy Kazadi Kamulo, je commence par vous parce que vous êtes sur place, vous avez vécu les faits. Et comment on peut expliquer cette situation?
Bon, d'abord, il faut dire que c'est une situation qui est arrivée à mon humble avis de manière brusque parce que la garde qui a été surprise s'y attendait le moindre. Et c'est une situation qui est arrivée et ça remet sur les tapis l'épineux problème de sécurisation des prisons, des lieux pénitentiaires en République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faudrait déplorer, c'est que la ville de Lubumbashi, à ce jour, est inondée de plusieurs inciviques, de gens qui ont fui la prison de la Kasapa, parmi lesquels il y a des personnes vraiment très dangereuse, voilà qui a poussé le gouvernement provincial du Katanga à prendre le bras, le corps, la situation, et tous les services spéciaux sont aux trousses des fugitifs, des réunions de sécurité se multiplient, des municipalités à la mairie et même au gouvernement provincial. Et nous osons croire que dans les jours qui suivent, la situation va redevenir à la normale. Mais il faut signaler qu'il y a déjà environ 200 fugitifs qui ont été appréhendés et remis à la prison centrale de la Kasapa.
Bienvenue Marie Bakoumania. Selon le porte-parole du ministre de la Justice et du gouvernement central, c'est une poignée d'hommes, 2 à 3 personnes, qui ont attaqué la prison et libéré ces 967 détenus. Ça paraît invraisemblable.
Moi, je suis écœuré. Je suis écœuré en tant que Congolais. Hein. Là, j'enlève ma casquette de journaliste, mais en tant que Congolais, je constate malheureusement que la refondation de l'État ne s'est pas encore faite. Cette manifestation où 3 personnes armées viennent surprendre une garde d'une prison comme la prison de Kasapa avec plus d'un millier de détenus, hein, ça devrait, on ne devrait
une
pas...
Une des prisons réputée le mieux sécurisée du pays.
On ne devrait pas s'en réjouir, on devrait en pleurer, on devrait même décréter un deuil national au niveau de la République. Parce que nous sommes, là la République a démontré qu'elle est incapable d'assurer la sécurité dans une prison. Les prisons sont par essence des lieux hautement sécurisés, où l'on devrait trouver des éléments bien armés, aguerris, qui ne sont pas surpris par trois individus qui viennent, même s'ils sont armés. Est-ce dire que les portes étaient déjà ouvertes? Est-ce dire également que ces gens avaient déjà identifié les lieux et avaient la facilité d'opérer avec une telle facilité? On ne dit même pas si les gardes qui ont été trouvés sur place ont été blessés ou tués. Je ne sais pas s'ils ont été atteints. Jusque-là, on ne parlait pas suffisamment de morts. C'est dire quelque part que...
On dit qu'il n'y avait que 5 gardes à la prison de Casablanca.
Pour une grande prison, voilà. Il y a de quoi s'inquiéter.
Et 3 s'étaient déplacés pour aller chercher la bouffe.
Voilà. Donc, il y a eu un dysfonctionnement grave qui démontre dans quel état le pays est géré. Et là, la responsabilité revient encore une fois à l'État. Il faut qu'on arrive à refonder la République, qu'on arrive à refonder l'État. Les symboles comme les prisons doivent démontrer les sérieux avec lesquels l'État est géré.
Giscard Koussema, il y a un habitant de Kolozi qui nous a écrit, qui dit que lorsqu'on voit l'emplacement de la prison des Kasapa et par rapport aux casernes des militaires, l'hypothèse de l'incapacité de contenir cette attaque n'est plus soutenable. Donc lui pense qu'il s'agit d'un montage, d'une évasion planifiée.
Écoutez, je ne saurais donner raison ou tort à cet auditeur-là qui comprend mieux la géographie de cette ville. Mais moi, au-delà des conditions carcérales et même des conditions sécuritaires de la ville de Lubumbashi, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la compilation de faits graves qui se sont produits dans la province ou dans la ville de Lubumbashi, et de faits qui sont même de nature à remettre en cause la souveraineté de l'État. Je vous rappelle, Guy Maté, en tant que journaliste, vous le savez, il y a eu, il y a quelques mois, l'attaque spectaculaire de l'aéroport de la Luano par un commando inconnu qu'on n'a jamais vu ni présenté depuis que cela s'est passé. Le modèle sud-soudanais a donné également des idées à tout ce discoureur sécessionniste de la province. On l'a suivi ici, des émissions qui passaient en boucle avec des propos de ce genre sans que cela ne soit condamné. Troisièmement, il y a cette affaire de visa proposée par un haut responsable de province au non originaire. C'est une affaire qui a été placée sans suite, sans intérêt. Et vous le savez que, toujours, s'agissant de cette province, on parle de ces conflits interprovinciaux avec la chasse aux Kasaïens. De faits avérés et qui se sont produits dans un passé très récent, pour ne pas dire au cours de 5 dernières années. Même les gouverneurs lui-même, les tout bouillants gouverneurs de province, qui de temps en temps fait l'objet des attaques de part ce propre gouverneur, haut responsable également, et pour lequel parfois on dit un peu de tout sur base de certaines rumeurs.
Donc,
oui, alors vous voyez que...
Le lien entre tout ce que vous venez d'évoquer et cette évasion, le lien c'est quoi?
Le lien c'est que la province du Katanga, que la CENI a d'ailleurs publicité comme la plus populaire de la République, au vu des résultats du recensement, qu'il y a encore des problèmes internes et des problèmes très sérieux et que la sécurité n'est pas aussi assurée qu'on le pense.
Barthélémy Kazadi Kaboulo, vous êtes sur place et vous êtes censé maîtriser bien la géographie de ces coins. Et qu'est-ce que vous proposez pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter?
Moi, je pense qu'il faudrait renforcer les mesures sécuritaires au niveau de la prison centrale de la Kasapa. C'est une prison qui se situe à environ 20 km du centre-ville de Lubumbashi. Donc c'est à quelques kilomètres de l'université de Lubumbashi. Il faudrait simplement qu'on renforce les mesures sécuritaires et aussi que l'État cherche à améliorer les conditions carcérales. Parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller visiter des détenus plusieurs fois dans la prison centrale de la Cassapa. Vous trouvez des gens qui vivent de manière misérable. Alors il faudrait que l'État puisse repenser le système pénitentiaire en République démocratique du Congo, qu'on puisse même informatiser le système, qu'on renforce les mesures de sécurité. Je pense qu'on éviterait dans l'avenir des situations pareilles.
Bienvenue Marie Bakoumania, repenser le système carcéral au Congo. À part ça, et que faut-il faire pour éviter ce genre de situations?
Je suivais une chaîne périphérique RFI pour ne pas la citer, qui a dit que c'était des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui auraient opéré, et que ce n'était pas pour sortir Gédéon, mais c'était plutôt pour sortir l'un de leurs qui était de l'attaque de l'aéroport de Luano. Jusque là, n'ai entendu aucun démenti. Est-ce dire que la version donnée par le ministre Kazadi n'est pas la bonne et qu'il y aurait une autre version en circulation? Je ne veux pas m'engager sur cette voie, mais je note seulement que si les éléments des FRDC sont impliqués, ben avec quoi on va renforcer la sécurité de la prison? Et cette succession de faits, comme l'a évoqué mon cher, mon estimé confrère Giscard, devrait amener les autorités tant centrales que provincial à prendre déjà des mesures adéquates. Il se pose réellement un problème dans la province du Katanga. Il faut l'identifier et en apporter des solutions. Et c'est l'État qui doit en apporter des solutions. Malheureusement, cet État n'existe pas.
Merci. Notre troisième thème de ce soir, les fonds monétaires internationaux et le gouvernement de la République démocratique du Congo satisfait de l'état de l'économie et des finances congolaises. Satisfaction exprimée samedi dernier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Le FMI explique ses bons résultats de la RDC par l'évolution favorable des cours des matières premières, mais aussi grâce aux bonnes politiques macroéconomiques, surtout au premier trimestre 2011. Le gouvernement congolais, de son côté, confirme ses arguments du Fonds monétaire international. Il promet également d'améliorer non seulement sa situation économico-financière, mais aussi le climat des affaires. Le ministre congolais des Finances, Matata Mponyo, s'exprime au micro de Donna Madimba.
Le plus important aujourd'hui, c'est que la RDC n'est plus stationnaire dans les domaines de l'amélioration du climat des affaires. Nous sommes en train de faire des progrès. On a gagné 5 points au Doing Business la fois passée. Cette fois-ci, certainement, nous allons gagner quelques points parce que nous prenons des réformes dans le domaine fiscal qui est le mien. Vous savez, il y a beaucoup de réformes que nous faisons. Il y a un nouveau code douanier qui est mis en route. Nous entrons le 1er janvier 2012 avec la TVA. Nous sommes en train de supprimer les taxes. Nous avons supprimé 18 taxes illégales et illicites. Bon, bref, il y a une action très très forte du gouvernement à pouvoir assainir le climat des affaires. Et donc, je crois qu'il y a de l'espoir. Pour la première fois, on sent que l'économie congolaise est dans une trajectoire qui libère les forces de croissance économique.
Bienvenue Marie Bakoumania, je commence par vous parce que vous êtes journaliste économique, vous êtes rédacteur en chef économie à Télé 7 du groupe de presse Le Potentiel basé ici à Kinshasa. Comment vous analysez ces performances économiques de la RDC selon le FMI?
Ben, le FMI a ses indicateurs, il trouve que le cadre macroéconomique est stable, ce qui est une bonne chose parce que en ce moment-là, le pouvoir d'achat de la population se consolide. Mais seulement lorsque l'on a un cadre macroéconomique stable, ça ne suffit pas. Il faut créer des richesses. On ne peut pas avoir la stabilité dans la pauvreté. Lorsqu'on a la stabilité dans la pauvreté, il n'y a pas progrès. Et là, je ne suis pas d'accord avec le ministre Matata Mponyo, le climat des affaires. Je prends l'exemple du Rwanda. Le Rwanda a progressé de plus de 20 points du coup dans le doing business. Pourquoi est-ce que le Congo doit se contenter de 5
points? Et cela a un impact sur la vie sociale de la population.
Absolument, cela a un impact sur la vie sociale de la population parce que les investissements viennent en masse. Et lorsqu'on tergiverse, lorsqu'il faut opérer des réformes et on se contente du peu, on ne doit pas se réjouir parce que cette réjouissance ne sera pas complète. On se réjouit, les indicateurs sont au vert, mais en réalité, la population ne le sent pas. Et lorsque la population ne ressent rien comme effet bénéfique de cette stabilité, ben elle est une stabilité apparente. Elle reste virtuelle parce que la population, c'est dans son vécu quotidien qu'elle doit sentir l'amélioration de la stabilité du cadre macroéconomique. Et là, les efforts doivent être fournis. Et là, le Fonds monétaire international le dit. On le souligne pas assez. La transparence dans les industries extractives doit être de mise. On a vu un communiqué de la société civile qui a dit que certains bonus payés au trésor public n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'État. Ce sont des choses à éviter. La redistribution du revenu national doit se faire dans la transparence, au vu et au su de tout le monde. En ce moment-là, lorsqu'il y a des performances, tout le monde applaudirait, tout le monde comprendrait que nous progressons dans telle direction et tout le monde fournirait des efforts pour qu'on y arrive.
Giscard Koussema, vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo émettant depuis Kinshasa. Selon Bienvenue Marie Bakoumania, la population ne ressent pas l'impact de ses performances économiques de la RDC.
Effectivement, je suis chaque fois sidéré d'entendre ces discours du genre, voilà, nous avons de performances. Mais écoutez, les finances congolaises travaillent-elles pour le Fonds monétaire international ou pour la population? Moi, je répondrai par la deuxième. Je crois que c'est par rapport à la population. Et tant que ces performances ne se seront jamais traduites...
Apparemment, nous avons perdu Giscard Koussema. Barthélémy Kazadi Kaboulo, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Katanga. Vous êtes dans cette province, le Katanga, une province qui détient beaucoup d'atouts et donc susceptible d'attirer beaucoup d'investisseurs. Le ministre Matata Mponyo annonce des progrès dans les domaines de l'amélioration du climat et des affaires. Vous qui êtes sur place, comment ça se passe? Les opérateurs économiques ne se plaignent plus
Bon, c'est quelque peu difficile d'incarner les opinions des opérateurs économiques, mais moi je voudrais simplement dire que le feu vert est allumé, c'est déjà un bon signe. Le FMI, à travers ses indicateurs, nous a donné toutes ces données chiffrées, mais moi je voudrais qu'on ne puisse pas dormir sur ses lauriers. Ce sont des efforts qui ont été fournis dans le sens de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo de manière générale, mais il faudrait que les Congolais les plus pauvres puissent voir les effets de cette amélioration du climat des affaires dans son assiette. On avait parlé il y a quelques mois de la thèse de l'initiative PPTE, mais beaucoup de Congolais se demandaient, mais c'est quoi ça finalement, la thèse de l'initiative PPTE? C'est que s'il y a des actions comme ça, il faudrait que ces actions soient suivies d'autres actions à impact visible sur terrain. Que les Congolais puissent se dire, bon voilà, le pain par exemple à 1000 francs, voilà que les conditions s'améliorent, à 800 francs ou à 700 francs. À ce moment-là, on peut espérer, n'est-ce pas, créer un esprit de responsabilité dans la population. Mais si ce sont des discours seulement, bon, FMI, satisfaisite, PPTE, tout ça, alors qu'il n'y a pas d'impact visible dans la population, moi je pense que ça risque d'être un discours creux.
Bienvenue Marie Bakoumania, le ministre Matata Mponyo, il est ministre des Finances, il a rappelé la suppression des 18 taxes illégales. N'est-ce pas là une mesure salutaire pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo?
Il a été recensé plus de 200, quelques 200 taxes illégales. Est-ce qu'il faut en supprimer seulement 18?
Je pense qu'il faut commencer quelque part.
Il faut commencer quelque part, mais on peut commencer à pas de géant. Il est possible, si l'on a la volonté et l'on veut faire changer les choses en suivant la bonne direction, il est possible de prendre des mesures drastiques, des mesures qui vont nous priver de quelques avantages personnels et égoïstes maintenant, au profit de la majorité de la population. La population, mais je suis heureux que Kazadi l'ait évoqué. Il a consenti des sacrifices pour atteindre le point d'achèvement. Et après les points d'achèvement, on nous a dit qu'il y avait de l'argent qui serait dégagé, des ressources financières additionnelles qui seraient dégagées. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça a été redistribué à la population? Ce sont là des vrais problèmes, des vraies questions auxquelles les dirigeants doivent répondre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, et Alain Irung à la réalisation, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.